3h à Paris, 2h en temps universel.
Antoine Galen.
Un prêt de 2,26 milliards de livres pour soutenir les capacités de défense ukrainienne. C'est ce qu'ont conclu Volodymyr Zelensky et Keir Starmer lors de leur rencontre à Londres. On y revient en début de journal. Entre le Hamas et Israël, la première phase de la trêve s'est terminée ce samedi. L'incertitude d'une potentielle deuxième phase plane toujours. Dans ce journal également, nous serons en Uruguay où le candidat de l'opposition de gauche, Yamandou Orsi, prend ses fonctions en tant que président. Et puis nous reviendrons sur le destin d'Abou Sangaré, ancien sans-papier qui a gagné le César du meilleur espoir pour son rôle dans le film « L'histoire de Souleymane ». Le jour d'après entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, vive altercation ce vendredi à la Maison-Blanche entre les deux chefs d'État. Un épisode qui a bousculé l'agenda du président ukrainien. Le premier ministre britannique Keir Starmer a décidé d'avancer sa rencontre avec Volodymyr Zelensky. Il l'a reçu ce samedi soir à Downing Street, en amont du sommet européen qui aura lieu dimanche à Londres et qui devrait se consacrer à la stratégie européenne dans les discussions de paix. Keir Starmer a voulu rassurer le président ukrainien du soutien indéfectible du Royaume-Uni. Correspondance de Sarah Menahi à Londres.
Vous êtes le bienvenu à Downing Street, vous avez le soutien des Britanniques à travers tout le Royaume-Uni et nous sommes absolument déterminés à vous soutenir et à obtenir une paix durable pour l'Ukraine. C'est par ces mots que le Premier ministre britannique a accueilli Volodymyr Zelensky ce samedi à Downing Street, ambiance très différente de l'accueil réservé au président ukrainien à la Maison-Blanche. Rassurer et réaffirmer le soutien du Royaume-Uni à l'Ukraine, c'était là toute la mission de Keir Starmer. Aujourd'hui, le Premier ministre britannique a à cœur d'incarner un continent européen qui fait bloc derrière le président ukrainien. Keir Starmer a un rôle important à jouer, celui de médiateur, de facilitateur. Il peut être un pont entre les États-Unis et le continent européen. Pour rétablir sa relation avec le président Trump, Volodymyr Zelensky aurait avec Keir Starmer ce week-end une vraie carte à jouer. Sarah Menahi, Londres, RFI.
Une trêve à Gaza pendant le Ramadan et la Pâque juive. Le cabinet du Premier ministre israélien Netanyahou a approuvé une proposition américaine. Pendant ce temps, la première phase de la trêve s'est terminée ce samedi et les négociations pour une deuxième phase n'ont toujours pas abouti. Elle devait permettre le retour de tous les otages israéliens et la fin de la guerre à Gaza. Mais les autorités israéliennes, elles, demandent une prolongation de la première phase et refusent de discuter du retrait de leurs troupes de l'enclave. L'armée israélienne aurait même présenté leur plan de gestion du territoire palestinien aux Nations Unies cette semaine. Oriane Verdier à Jérusalem.
Ce plan a été présenté mercredi devant des représentants des Nations Unies et d'autres organisations humanitaires. Certains d'entre eux en ont confié les détails au Guardian. Selon le quotidien britannique, Israël prévoit notamment de contrôler la distribution de l'aide via des pôles logistiques qui lui permettraient d'en choisir les bénéficiaires. La distribution serait assurée par des entreprises de sécurité privées. Un projet discuté depuis le début de la guerre à Gaza et évoqué à nouveau il y a 5 mois après l'adoption par le Parlement israélien de 2 lois visant à mettre fin aux activités de l'UNRWA, l'agence des Nations Unies chargée des réfugiés palestiniens. Le seul point d'entrée de l'aide humanitaire serait celui de Kerem Shalom sous contrôle israélien. Celui de Rafah entre l'Égypte et Gaza serait complètement fermé. Les organisations humanitaires et leur personnel devraient être validés en amont par Israël, ce qui rendrait impossible le travail de l'UNRWA sur place. C'est pourtant aujourd'hui le principal coordinateur de l'aide à la population gazaoui. Aujourd'hui, malgré la mise en place du cessez-le-feu, certains équipements n'entrent toujours pas en nombre suffisant dans l'enclave. 6 enfants sont morts de froid à Gaza cette semaine, selon l'UNRWA. Julien Boileau, Oriane Verdier, Jérusalem, RFI.
L'ONU s'inquiète d'une reprise de la guerre, cela serait catastrophique, les mots d'Antonio Guterres. Le message est passé, le parti des travailleurs du Kurdistan annonce un cessez-le-feu avec la Turquie, conséquence de l'appel de leur leader Abdullah Öcalan qui avait demandé de déposer les armes et de dissoudre le mouvement ce jeudi. Recep Tayyip Erdogan jure de poursuivre les opérations anti-PKK si les promesses ne sont pas tenues. Le mouvement kurde réclame la libération de leur fondateur, âgé de 75 ans, condamné à vie et emprisonné depuis 26 ans sur une île au large d'Istanbul. En près de 4 décennies, le conflit a fait plus de 40 000 morts. L'île de la Réunion, endeuillée par le cyclone Garance. Au moins 4 morts et 5 blessés sont à déplorer. L'alerte rouge a été levée, arbres déracinés, toits envolés, coulées de boue massives. Le nord et l'est de l'île a été particulièrement touché. Près de 310 000 personnes sont toujours privées d'eau potable, 160 000 d'électricité. Après l'altercation entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron a rencontré ses deux homologues. Le président français a d'ailleurs relancé le débat sur l'idée très sensible d'un parapluie nucléaire européen. Une réponse au futur chancelier allemand Friedrich Merz, qui a jugé nécessaire que l'Europe se prépare au pire scénario d'une OTAN dépourvue de la garantie de sécurité américaine. Manifestation massive ce jeudi en Serbie. Des milliers d'étudiants se sont rassemblés à Niš, dans le sud-est du pays, pour dire non à la corruption. Les manifestations ont débuté après un dramatique accident dans une gare qui a fait 15 morts le 1er novembre dernier à Novi Sad, symbole de la corruption qui règne dans le pays pour de nombreux Serbes. Depuis des mois, le mouvement exerce une pression croissante sur le gouvernement serbe. Plusieurs hauts responsables ont démissionné, dont le Premier ministre Milos Vucevic. Et direction l'Uruguay désormais. Le candidat de l'opposition de gauche, Yamandou Orsi, prend ses fonctions en tant que président. Alors quels sont les principaux défis qu'attendent le gouvernement ? Élément de réponse de la politologue Camila Ceballos.
Tout d'abord, il y a le domaine de la sécurité publique, avec l'augmentation de la criminalité, notamment en raison du trafic de drogue. Ensuite, il y a des défis économiques. Le pays fait face à un déficit fiscal et à des déséquilibres dans les comptes publics. Le troisième défi auquel le gouvernement de Yamandou Orsi est confronté concerne la sécurité sociale. Le gouvernement précédent, dirigé par le président Luis Lacalpú, a mis en place une nouvelle loi sur la sécurité sociale qui a des répercussions sur le régime de retraite des Uruguayens. En effet, l'âge de départ à la retraite a été repoussé. Le nouveau président s'est engagé à lancer un dialogue social pour modifier cette loi. Mais il s'agissait avant tout d'une promesse de campagne visant à capter les voix de ceux qui n'avaient pas été convaincus par le programme du Frente Amplio, ce parti de gauche qui ne soutenait pas la réforme de la sécurité sociale telle qu'elle a été adoptée l'année dernière par référendum.
Des propos recueillis par Paola Arisa. La frontière avec le Mexique dans le viseur de Donald Trump. 3000 soldats supplémentaires vont y être envoyés. Ils seront donc près de 9000 à lutter contre l'immigration clandestine. Priorité de Donald Trump. Au premier jour de son retour au pouvoir, le président américain avait signé un décret déclarant l'état d'urgence à la frontière avec le Mexique. La cérémonie des Césars, c'était ce vendredi soir en France. Abou Sangaré, le Guinéen sans papier qui est devenu célèbre en jouant son propre rôle au cinéma, a été sacré par le César du meilleur espoir. Un destin qui pourrait inspirer ses semblables, car les sans-papiers sont légion parmi les livreurs. Laurence Théo a rencontré l'un d'eux à Paris.
Ibrahim se tient sur la pointe des pieds, les deux mains posées sur le guidon, comme le héros du film « L'histoire de Souleyman », le jeune homme est livreur à vélo. Il n'a pas vu le film, le cinéma pas vraiment le temps. Alors quand on lui raconte le synopsis, le quotidien âpre et stressant d'un livreur sans-papiers, pas besoin, il connaît l'histoire.
Ouais, c'est un métier difficile là, parce qu'il fait froid déjà, dans la pluie, ça pleut. On peut tomber, on peut des fois la commande il tombe.
Arrêtez de me pousser si vous me passez la commande.
T'as pas le droit de frapper chez moi.
Même avec les clients, il y a des clients durs, il y a des clients ils sont gentils.
Dans la fiction, Souleymane, livreur à vélo, est soumis à la rouerie des profiteurs de misère, des semblables, eux-mêmes à peine sortis de la précarité.
Moi j'ai besoin des sous. Demain, je te paye à 13h.
De la même façon, Ibrahim enchaîne les livraisons et pédale jusqu'au bout de la nuit. Sans papier, il est à la merci de ceux qui lui donnent du travail.
Ils en profitent, hein. Ça fait 8 ans que je suis là en France. J'ai pas réglé les papiers, pas encore.
Grâce au film, Abou Sangaré, jeune Guinéen qui joue le rôle de Souleymane, est aujourd'hui en situation régulière. Dans un large sourire, Ibrahim lui adresse un message.
Il faut continuer pour envoyer des messages. Bravo à vous, hein. Il faut continuer.
Ibrahim s'est promis d'aller voir le film, car c'est son histoire aussi qui est portée à l'écran.
Le film s'intitule « L'histoire de Souleymane », c'est l'un des succès de cette année en France. Du sport avant de fermer ce journal, en football, le Real Madrid sombre à Séville, défaite 2-1 contre le Betis. L'Atlético en profite, il dépasse leur rival au classement grâce à une victoire 1-0 contre Bilbao. Le Paris Saint-Germain écœure Lille, victoire 4-1. Remontada du Havre contre Lens 4-3. Quelques heures plus tôt, Nice a battu Saint-Etienne 3-1. Et puis en Italie, Naples et l'Inter Milan se neutralisent 1-1. RFI bientôt 3h10 à Paris.